Les Américains veulent une stabilité. Ils ont, à la veille des élections au mois de janvier, ils ont annoncé qu'ils livreraient des nouvelles armes à Taïwan, aux grandes dames d'ailleurs des Chinois du continent. Et puis, ils ont annoncé qu'il y aurait maintenant plus de visas entre Taïwan et les Américains, ce qui, pour les Taïwanais, est une forme de reconnaissance non négligeable, puisque les Chinois du continent ont toujours besoin d'avoir un visa. Donc voilà, on a une situation qui, du point de vue géopolitique, risque de durer avec une sorte de, comme on le dit dans le diplo de ce mois-ci, c'est-à-dire une sorte de trêve diplomatique. On peut l'espérer, on peut espérer que ça soit au moins un statu quo, mais on n'est jamais sûr de rien dans cette région. Il y a quand même, comme vous le savez, beaucoup d'enjeux géopolitiques. On sait que les États-Unis mènent une offensive pour reprendre pied un peu dans l'Asie.
La Corée du Nord, ça leur est bien pratique. Le démon, le monstre, est là, et il faut le surveiller, il est très utile ce monstre.
La Corée du Nord est absolument utile, et puis, mais bon, il faut dire que en plus à Pékin, ce que je vous disais la dernière fois, c'est qu'on est un peu, on se raidit, on est à la veille d'un congrès qui va changer donc 7 membres du secrétariat sur 9, hein, et donc là aussi on est extrêmement tendu, y compris sur la question de Taïwan, c'est-à-dire quand on leur parle off, très tranquillement, les dirigeants à Pékin vous disent « Oh, mais on a le temps. » L'essentiel, c'est qu'ils ne déclarent pas leur indépendance, parce que ça, on ne peut pas l'accepter. Nous, notre territoire ne doit pas être touché, donc il n'est pas question qu'on accepte l'indépendance. Mais tant qu'ils restent comme ils sont, aucun problème. On est pour, comme vous le savez, une Chine de système. Les Taïwanais, eux, disent « Une Chine, deux interprétations ». On peut interpréter d'un côté de la rive, du côté de Pékin, qu'on fait partie de l'ensemble chinois. Et puis nous, on interprète ça différemment, c'est-à-dire qu'on est autonome, voire indépendant. Bon, on essaie de maintenir le statu quo. Est-ce que ça peut durer? Ce qui est sûr, c'est que la Chine ne peut pas intégrer à coup de canon, si je puis dire, Taïwan dans son giron. Ça me paraît complètement impossible du point de vue géopolitique comme du point de vue de la population taïwanaise.
On continue avec le diplo de février, avec Anne-Cécile Robert, et on va s'intéresser aux Nations Unies, à l'ONU. Vous nous apprenez dans le papier, au passage, 44 000 salariés dans cette énorme machine, et vous vous inquiétez pour l'ONU. C'est un peu qui veut la peau de l'ONU, ce papier, Anne-Cécile.
J'imagine vos auditeurs, Daniel Mermet, qui disent « Oh, ils vont parler de l'ONU, on va s'ennuyer ». Mais non. D'abord parce que mon enquête...
Voyons.
Oui. D'abord parce que mon enquête est truffée d'anecdotes croustillantes, mais également parce qu'on aurait tort de sous-estimer le rôle que jouent les Nations Unies, un rôle quotidien. Vous citiez 40 000...
44 000, c'est votre chiffre à vous, hein.
C'est le chiffre officiel. Finalement, c'est pas beaucoup quand on voit tout ce que font les Nations Unies à travers la planète en matière de maintien de la paix, d'aide alimentaire, de négociation, de création de normes juridiques. Et elles le font souvent dans la discrétion et avec beaucoup d'abnégation. Et là où on peut s'inquiéter, c'est qu'il y a une petite tendance parmi les grandes puissances internationales aujourd'hui à trouver d'autres lieux de discussion que les Nations Unies. On va créer des G20, on va créer des groupes d'experts, on va solliciter le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, alors qu'aux Nations Unies, il y a des organismes comme la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement, ou l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui pourraient faire très bien l'affaire. Donc il y a une tendance à un petit peu court-circuiter les Nations Unies. Alors vous me direz pourquoi c'est inquiétant. Ben, c'est inquiétant parce que les Nations Unies ont été bâties après la Seconde Guerre mondiale sur l'idée d'être un forum international où tous les États seraient représentés, où il y a des règles du jeu, il y a des procédures, où on doit se soumettre à un certain nombre de règles. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors que dans le G20 ou au Fonds monétaire international, toutes ces questions de droits de l'homme, toutes ces questions de paix, toutes les règles de représentation passent complètement à la trappe. Vous avez remarqué, le G20, bon, on a commencé, c'était le G7 dans le temps, ils se cooptent les uns les autres, ils créent un petit club et ils se transforment en directoire, où ils s'adoubent les uns les autres, alors ils se félicitent, etc. Et tout ça se passe en dehors de toute légitimité, en dehors de toute règle, et ça impose des choses à des populations entières. Le G20 se permet des conseils ou des recommandations en matière